Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, rassemblement à Barcelone des unionistes au lendemain d'une forte mobilisation des indépendantistes catalans, correspondance de Mélanie Núñez. Les suites juridiques des injures dont a été l'objet hier Alain Finkielkraut, agressé en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris. Les mesures dites de rigueur prises hier soir par le gouvernement haïtien en Haïti où la population ne supporte plus la corruption des gouvernants, précision d'Audrey Tison. Et puis à la fin de cette édition, la face cachée du globe, Nabila Hamel s'attarde ce dimanche sur la justice spéciale pour la paix en Colombie. Hier et aujourd'hui Barcelone, avant-hier Franco et demain de nouvelles élections. Ce survol pointe le vertige que croise l'Espagne. Hier, des centaines de milliers d'indépendantistes ont défilé en soutien à 12 des leurs, jugés depuis mardi à Madrid pour sécession. Il y a 48 heures, le Premier ministre socialiste convoquait des élections anticipées, faute d'avoir pu faire voter son projet de budget à l'Assemblée. Et dans le même temps, Pedro Sanchez ouvrait le processus d'exhumation de la dépouille du dictateur Franco, de quoi en faire son principal argument de campagne. En cette mi-journée, ce sont les unionistes qui donnent de la voix dans les rues de Barcelone. Sur place, Mélanie Núñez.
Des unionistes qui ont décidé de revoir à la baisse cette mobilisation. Ils ont finalement annulé la manifestation prévue à midi car ils estiment être satisfaits des élections législatives d'avril annoncées par le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Ils ont finalement organisé une réunion publique. Elle se déroule en ce moment dans un hôtel très chic dans un quartier qui concentre les sièges des entreprises catalanes avec vue sur la mer. Ils sont quelques centaines pour le moment. Rien à voir donc avec la démonstration de force des indépendantistes hier sur la grande Via de Barcelone, où près de 200 000 personnes ont répondu présent. L'objectif de cette réunion, c'est avant tout de délivrer un message d'unité. La Catalogne, c'est l'Espagne. Ils souhaitent défendre la constitution de leur pays. J'ai pu parler avec des militants confiants qui placent tout leur espoir dans cette alliance de la droite, qui connaît une poussée en Espagne. Elle regroupe trois partis. Ciudadanos, de centre droit, le Parti Populaire, le PP, à droite, et Vox, le récent parti d'extrême droite qui a émergé depuis peu. Des unionistes qui ont donc basé leur discours de campagne contre l'indépendantisme. A noter également l'absence de Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, avec l'appui de Ciudadanos, un parti qui est pourtant présent aujourd'hui. Eh bien, l'ancien Premier ministre n'est pas venu. Il avait pourtant manifesté aux côtés de la droite et de l'extrême droite dimanche dernier à Madrid.
Mélanie Núñez à Barcelone. À la conférence internationale sur la sécurité de Munich, au lieu du dialogue transatlantique par essence, les fractures américano-européennes font la une depuis vendredi soir, parmi lesquelles la Syrie. Et c'est un message du président américain posté la nuit dernière sur la messagerie Twitter qui alimente ces fractures. Donald Trump appelle les pays européens à rapatrier et à juger leurs ressortissants faits prisonniers parmi les djihadistes en Syrie. Le parquet de Paris a annoncé dans la matinée l'ouverture d'une enquête à la suite des injures dont le philosophe et producteur de France Culture, Alain Finkielkraut, a été l'objet hier en marge de la manifestation parisienne des Gilets jaunes. Enquête du chef d'injures publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. La classe politique a dès hier soir dit son indignation. Bonjour Steven Goyer.
Bonjour.
Steven, ce matin encore, lors des traditionnelles émissions politiques dominicales, il a été question de mettre un terme à, je cite, un climat d'impunité.
Et c'est d'abord Alain Finkielkraut lui-même qui était tout à l'heure invité sur le plateau de nos confrères d'LCI pour revenir sur son agression massivement diffusée et condamnée sur les réseaux sociaux.
Je pense que certains d'entre eux voulaient me casser la gueule. C'était une violence, malgré tout, pogromiste. Leur religion était faite sur ma personne. J'étais un raciste, j'étais une grosse mère de sioniste, j'étais un fasciste. Et à ce titre-là, je devais être immédiatement expulsé. Je dois ajouter que au même moment, deux ou trois gilets jaunes sont venus vers moi pour me tendre un gilet et pour me demander de me joindre à la manifestation.
Alain Finkielkraut qui a dit vouloir savoir qui sont les personnes concernées, indiquant également ne pas vouloir déposer plainte. L'identification des auteurs est maintenant entre les mains de la justice, une procédure qui devrait pouvoir se faire assez rapidement puisque les personnes concernées apparaissent sur la vidéo à visage découvert. Identification réclamée aussi ce matin sur Europe 1 par la tête de liste du Parti Les Républicains pour les Européennes, François-Xavier Bellamy, qui appelle également, au-delà de la condamnation, à la plus grande fermeté.
Alain Finkielkraut a été l'un des premiers à dénoncer ce mal qui monte. à travers cette défaite de la pensée. Aujourd'hui, c'est aussi une défaite de l'action et il faut absolument que le gouvernement se montre d'une fermeté implacable pour retrouver ces hommes et pour les punir comme ils doivent l'être, sans quoi nous risquons encore de donner le sentiment qu'une forme d'impunité s'exerce qui laisse la place à toutes les haines et à toutes les violences.
Alors cette demande de fermeté, elle est revenue plusieurs fois depuis hier soir. Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, y a répondu il y a quelques minutes sur le plateau de BFM TV.
Moi, je condamne bien évidemment fermement ces propos. Je rejoins ce qu'a dit le président de la République. C'est finalement la négation de ce que nous sommes, une grande nation, et ça n'est pas tolérable. Et c'est pour ça que, dès hier soir, avec Christophe Castaner, nous avons demandé à nos services de travailler sur le visage de ces individus, puisqu'on les voit, ils professent leurs injures racistes à visage découvert. Ce sont des individus que nous essayons d'identifier. Et bien évidemment, ces éléments seront versés à la justice.
Et Christophe Castaner l'a annoncé sur Twitter il y a une heure, un suspect reconnu comme le principal auteur des injures a été identifié.
Merci à vous Steven Goyer. Alexandre Benalla a porté plainte ce matin pour atteinte à la vie privée et atteinte à la représentation de la personne. Après la publication par nos collègues de Mediapart d'enregistrements de conversations entre lui et Vincent Crase, ex-employé de La République En Marche et gendarme réserviste. Le silence autour des abus sexuels dans l'Église résulterait, selon le président de la Conférence des évêques de France, je cite, d'un péché collectif. Et le prélat, dans les colonnes du journal du dimanche, de se dire favorable à la sortie mercredi prochain du film de François Ozon, Grâce à Dieu. Sortie remise en cause par les avocats du père Prénat, mise en examen pour agression sexuelle sur mineur. Le film de François Ozon s'empare de cette affaire. La justice se prononcera demain sur cette demande de report. Demain, à savoir 48 heures après la Berlinale, c'était hier soir, François Ozon, après avoir reçu le prix du jury et l'ours d'argent.
Je suis honoré de recevoir cette récompense ici à Berlin pour ce film à propos d'un sujet qui est cher à mon cœur, la protection des enfants, et pour un film qui essaie de briser le silence sur les abus sexuels au sein d'institutions puissantes. Je ne sais pas si le cinéma peut changer le monde, mais je suis sûr qu'il nous aide à mieux le comprendre. Je veux partager cette récompense avec les trois hommes qui m'ont inspiré, des hommes qui ont été victimes d'un prêtre pédophile. Vous êtes mes héros. Normalement, je devrais remercier l'équipe du film, le jury ou le directeur du festival pour cette récompense. Mais désolé, dans ce cas spécifique, je veux simplement remercier Dieu.
Le réalisateur français François Ozon. 10 jours de colère, 10 jours de violence, de colère contre une classe politique corrompue et indifférente à la misère endémique. Le peuple haïtien arpente les rues des principales villes du pays depuis le 7 février et l'argumentaire de l'ingérence de l'ennemi américain ne suffit pas, ne suffit plus. Hier soir, le Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan a annoncé ce qui est qualifié de mesure de rigueur. Bonjour Audrey Tison.
Bonjour.
Audrey, de quelles mesures s'agit-il ?
D'abord des mesures d'économie et de rigueur dans les administrations. Une baisse de 30% du budget de ses propres services de Premier ministre. Il faut aussi retirer tous les privilèges non nécessaires aux hauts fonctionnaires, dit Jean-Henri Séan. Il suggère à la présidence et au Parlement d'en faire autant. Le Premier ministre énonce également l'intensification de la lutte contre la contrebande et contre la corruption.
Problème corruption cap gangrené l'État. Problème richesse pays qui pas bien séparé.
Concernant le pouvoir d'achat, il annonce des rencontres avec le secteur privé afin d'envisager une hausse du salaire minimum. Il veut aussi travailler avec les producteurs et importateurs pour abaisser le prix des produits alimentaires comme le riz. Cela sera-t-il suffisant pour calmer la colère de la rue ? Toutes les annonces sont basées sur le futur. Certaines relèvent de l'utopie et sont étalées sur des mois, commente le site d'information La Caille Presse. D'ailleurs, sans attendre ce discours, un nouvel appel à manifester avait été lancé pour ce dimanche. Depuis le début du mouvement, c'est bien la démission du président Jovenel Moïse qui est réclamée. Mais pour laisser place à qui ? L'opposition a du mal à se structurer, mais une figure semble émerger. Moïse Jean-Charles, chef de file du principal parti d'opposition, Petite Dessalines, il l'a déjà averti. Si rien ne bouge, un président autoproclamé sera installé dans les prochains jours.
Merci à vous Audrey Tison. Il est 12h40. Vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Ils étaient dans les rangs du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria. 200 djihadistes camerounais sont rentrés volontairement dans leur pays mercredi et se sont rendus aux autorités. L'Égypte, épinglée par des organisations humanitaires pour sa politique d'interdiction des visites familiales aux personnes détenues pour des raisons politiques. Human Rights Watch estime à 60 000 le nombre de prisonniers depuis 2013, soit après la destitution de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Un chiffre démenti par les autorités. Les revenus du tourisme en Chine ont connu un ralentissement en 2018, même s'ils représentent tout de même 11% du produit intérieur brut. Les Chinois restent toutefois les premiers en termes de dépenses touristiques hors de leurs frontières, avec 149 millions de voyages à l'étranger en 2018. Cap sur la Colombie, où a eu lieu jeudi la première audience de Rodrigo Londoño devant les magistrats de la Justice spéciale pour la paix, la JEP comme on l'appelle, et l'instance créée par l'accord de 2016 pour juger les crimes de guerre commis par les guerrieros et les paramilitaires. Londoño, nom de guerre Timochenko, a été le dernier chef de la guérilla des FARC à avoir signé la paix avant de transformer son mouvement de guérilla en parti politique. Et il est le premier des 31 anciens rebelles à témoigner sur le dossier spécifique des rétentions illégales de personnes durant le conflit colombien. À Bogota, c'est une correspondance de Marie Delcas.
Le dossier porte le numéro 001. Il concerne les 8163 enlèvements imputés à l'ancienne guérilla des FARC. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a parlé pendant plus de 8 heures. L'audience est tenue à Bogota et à huis clos. En sortant, l'ancien commandant guerriero s'est montré calme et optimiste. « Nous allons être à la hauteur des engagements que nous avons pris », a-t-il déclaré. Il a rappelé qu'il y aurait beaucoup d'autres audiences. Au total, 31 ex-commandants guerriero devraient comparaître devant la JEP d'ici à la fin du mois de mai. Pour bénéficier de réductions de peine, ils doivent dire la vérité, toute la vérité. Alors la bonne volonté de ces anciens chefs guerriero qui jouent le jeu aujourd'hui de la démocratie et de la justice transitionnelle ne peut faire oublier que la paix va mal. Dans les zones rurales, les assassinats sélectifs continuent. En 2 ans, plus de 300 personnes ont été tuées. La droite dure, qui est revenue au pouvoir depuis le mois d'août dernier, n'est pas pressée de mettre en œuvre un accord de paix qu'elle a toujours critiqué. Les programmes de développement rural et de réinsertion des anciens guérilleros manquent de fonds. Le président Iván Duque n'a toujours pas sanctionné la loi statutaire qui permettrait à la justice spéciale pour la paix de faire son travail.
Les importations de voitures reviennent dans le collimateur de l'administration Trump, qui évoque un affaiblissement de l'industrie automobile américaine et par conséquent un risque pour la sécurité nationale. Des arguments, Pierre-Yves Dugas, qui font craindre l'imposition de nouvelles taxes douanières et donc des tensions en vue avec l'Europe.
Après 10 mois d'enquête, le département du commerce juge que les importations de véhicules automobiles étrangers représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. L'industrie automobile japonaise, coréenne et allemande sont directement visées par cette conclusion qui donnera à Donald Trump 90 jours pour imposer, s'il le juge nécessaire, des droits de douane sur des pièces détachées ou sur des automobiles étrangères. Le département du commerce envisage d'aller jusqu'à 25% de la valeur des importations automobiles. Voilà qui alarme particulièrement les Allemands, dont les usines Volkswagen, Daimler et BMW dépendent de pièces allemandes pour assembler aux États-Unis des voitures bien souvent réexportées, notamment en Chine. On anticipe dans un premier temps l'annonce par la Maison-Blanche d'une date butoir au-delà de laquelle de telles sanctions pourraient tomber. La menace est censée pousser surtout les Européens à lever les barrières douanières qui frappent les véhicules américains vendus en Europe. C'est la tactique systématiquement employée par l'administration Trump. Menacer de sanctions pour déclencher des négociations, au besoin appliquer ces sanctions si les négociations n'aboutissent pas assez vite aux concessions voulues par Washington.
Une quantité significative des pièces historiques exposées au Musée national de Rio ont pu être sauvées. En tout, 2000 pièces ont été retrouvées. C'est le premier constat fait mardi par les paléontologues et archéologues de ce musée après l'incendie qui l'a ravagé en septembre. Mais plusieurs collections, dont celle d'entomologie, ont été perdues. L'ancien palais royal comptait 20 millions de pièces. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Hamel. Le temps de l'après-midi, généralement bien ensoleillé, sauf sur la Bretagne et autour du golfe du Lion. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux à la technique, Jean-Guy Lamège.